Chapitre 10e. À terre, rencontre surprenante, l'ermite est rendu à la liberté, il est porté en triomphe. Lorsque nous abordâmes sur la plage, je fus l'objet, quoique mon grade de simple matelot à bord de la preneuse n'eût rien qui pût motiver une semblable réception, l'objet d'une véritable ovation. On m'entourait, on m'accablait d'offres de service, l'un me proposait sa maison, celui-ci de l'argent, celui-là des habits. C'était à qui obtiendrait de moi une marque d'attention, une parole, un sourire. Le fait est que cette brillante conduite de la preneuse avait excité au plus haut point l'intérêt des habitants en notre faveur et que chacun d'eux, nous considérant tous comme des héros, mettait son amour-propre à tâcher d'accaparer le plus humble d'entre nous pour lui faire raconter les épisodes du combat. Troublé par toutes ces amabilités bruyantes, je ne savais à qui répondre, lorsqu'à la vue de M. Montalant, le constructeur de navires dont j'ai déjà parlé, qui accourait à moi les bras ouverts, toutes mes incertitudes cessèrent. Je le suivis à sa maison. Une fois qu'il m'eut habillé de pied en cap avec ses effets, qu'il m'eut fait prendre un bon repas et dormir une heure ou deux, il me demanda le récit détaillé des événements qui s'étaient passés à bord de la preneuse. La nuit était venue, et plusieurs visiteurs et surtout beaucoup de visiteuses, que ma présence avait attiré, encombrait le salon de M. Montalant. Ce fut devant un brillant et nombreux auditoire que je commençai ma narration, qui, je dois l'avouer malgré ma modestie, obtint un immense succès. J'en étais arrivé au récit de la mort de M. Graffin, et je voyais des larmes briller dans tous les yeux. Je crois bien que j'étais aussi un peu attendri moi-même, lorsque la porte du salon s'ouvrit et qu'un nouveau visiteur entra. À l'aspect d'un jeune homme de 22 à 25 ans qui se présenta avec d'excellentes manières et s'en fut saluer le maître et la maîtresse de la maison, un vif mouvement de dépit ou de contrariété se manifesta parmi l'assemblée. Le nouveau venu comprit de suite la gêne que causait sa présence et jeta, en rougissant, un regard rapide autour du salon. Il m'aperçut aussitôt. « Monsieur, dit-il en s'adressant à mon ami Montalant avec un accent qui trahissait son origine anglaise, j'aperçois ici, si je ne me trompe, un des combattants de la preneuse que j'ai vu débarquer tantôt sur la plage. Seriez-vous assez bon pour vouloir bien me faire l'honneur de me présenter à lui ? Monsieur Montalant s'empressa d'obéir à ce désir, et s'avançant, suivi du jeune homme vers moi, « Monsieur Green, dit-il, je vous présente Monsieur Garneret, l'un des marins de la preneuse. » « Monsieur Garneret, Monsieur Green, lieutenant de vaisseau au service de Sa Majesté britannique. » Nous nous saluâmes, l'officier et moi, et celui-ci, m'adressant aussitôt la parole à haute voix et de façon à pouvoir être entendu de tout le monde, « Je crains bien, monsieur, me dit-il, d'être arrivé ici en importun, au moment où vous racontiez le combat d'aujourd'hui. Que ma présence, je vous en conjure, ne vous fasse pas suspendre votre récit. La France et l'Angleterre, quoique rivales, possèdent toutes deux d'assez riches souvenirs de gloire pour n'avoir rien à s'envier. Quant à la conduite du capitaine l'ermite et à l'héroïsme montré par votre équipage, ce sont là des faits évidemment si glorieux que vous ne pouvez me blesser en rien dans ma fierté nationale en les retraçant devant moi. Je ne suis pas anglais seulement, monsieur, je suis aussi homme de guerre, et les belles actions trouvent toutes et toujours un écho dans mon cœur. » Le lieutenant Green, après avoir prononcé ces paroles, qui furent parfaitement accueillis par l'assemblée, s'assit près de moi et me donna à comprendre, par son air grave et recueilli, qu'il était prêt à m'écouter. Je repris mon récit interrompu. Lorsque j'eus terminé au milieu de l'attendrissement général, M. Green se retournant vers moi, « Vous ne vous doutez probablement pas, monsieur, que nous sommes déjà des connaissances. Oh, n'interrogez pas vos souvenirs, vous ne m'avez jamais vu, c'est vrai. » Mais nous nous sommes déjà trouvés l'un et l'autre en présence dans la baie de Lagoa. « Quoi ? Vous étiez sur l'un des navires que nous avons attaqués dans la baie de Lagoa ? » m'écriai-je avec une certaine émotion, car le souvenir de ce désastre m'impressionnait encore. « Que vous avez attaqué, non pas. Seulement, vous souvenez-vous qu'avant le commencement de l'action, une goélette vous passa en poupe ?»« Parfaitement, monsieur. Cette goélette nous parut même posséder un très petit nombre de matelots. » Cela se conçoit. J'avais fait, car c'était justement moi qui commandais cette goélette, cacher l'équipage. j'étais envoyé par le capitaine de la corvette pour avertir les autorités anglaises du Cap de Bonne-Espérance de votre présence dans ces parages et de votre audacieuse agression. C'est à cette mission, que je remplis avec bonheur, que vous devez, ne m'en voulez pas pour cela, d'avoir eu le Jupiter à combattre. Je dois à présent vous avouer loyalement qu'au Cap, on ne craignait qu'une chose en envoyant ce vaisseau contre vous, c'est qu'il ne put vous rejoindre. Quant à votre capture, elle n'était pas même le sujet d'un doute. Jugez donc du sentiment de dépit et d'admiration tout à la fois que nous ressentîmes en voyant revenir, quelques jours plus tard, le Jupiter battu et coulant bas. Depuis lors, le nom de l'ermite avait grandi parmi nous de toute la hauteur de cet exploit. Le combat d'aujourd'hui le met à tout jamais au premier rang. « Pardon de ma question, monsieur, » dis-je au lieutenant Green, « mais serait-il permis de vous demander, sans indiscrétion, si notre feu vous a occasionné quelques dommages dans la baie de Lagoa ?»« Je vous répondrai avec ma franchise habituelle, oui, votre attaque nous a été funeste. À peine aviez-vous mis à la voile que le vaisseau de la compagnie a coulé bas. Quant à la corvette et aux baleiniers, ils n'étaient guère en meilleur état. » C'était à peine s'il leur restait assez de monde pour manœuvrer, tant vous aviez décimé leurs équipages. Ils ont eu toutes les peines imaginables à regagner le cap. Ah, sans l'heureuse tempête du lendemain, qui vous a probablement, du moins nous l'avons pensé ainsi, empêché de revenir, nous étions obligés de nous rendre à discrétion. C'est là, pour vous, un bien beau fait d'armes. Mais comment se fait-il donc, monsieur, lui demandai-je, en ne voulant pas insister devant tant de loyauté et de franchise, sur des événements qui devaient lui être pénibles. Comment se fait-il donc, monsieur, que j'ai l'honneur de vous voir en ce moment à l'Île-de-France ? J'ai été surpris, dans une embarcation, en venant reconnaître la côte, je suis prisonnier de guerre sur parole. Une semaine s'était écoulée depuis que l'ermite était à bord du vaisseau amiral anglais. Chaque jour, des embarcations envoyées avec le drapeau parlementaire allaient s'enquérir de l'état de sa santé. Il me serait impossible d'exprimer l'intérêt qu'inspirait à tous les habitants de l'Île-de-France le sort du noble prisonnier. On avait offert, par souscription, de payer une somme énorme pour sa rançon. Inutile d'ajouter que l'amiral Pellew n'avait pas même daigné consentir à discuter cette proposition. Quant à moi, grâce à la généreuse hospitalité de M. Montalant, qui m'avait attaché en qualité de dessinateur à son atelier de construction, je menais une vie qui, sans le désir dont j'étais tourmenté de reprendre la mer, eût été tout à fait heureuse. Un matin que je me promenais, selon mon habitude quotidienne sur la plage, je vis les deux vaisseaux anglais, après s'être ralliés ce jour-là de meilleure heure qu'à l'ordinaire, se présenter devant la rade, hors de la portée des forts, puis, munis tous les deux d'insignes parlementaires, mettre en panne. Bientôt une embarcation se détache du vaisseau amiral, tandis que des coups de canon tirés successivement par chaque croiseur à intervalles égaux amènent toute la population de la ville sur le rivage. Les uns prétendent que ces coups de canon nous sont adressés en signe d'adieu, d'autres qu'ils constituent une bravade. Enfin, chacun se livre à ses suppositions. Pendant ce temps-là, l'embarcation que j'ai vue se détacher du vaisseau amiral continue d'avancer vers le rivage. Bientôt, elle attire tous les regards. On distingue, derrière les rameurs, des uniformes d'officiers qui ne sont point ceux de la marine anglaise, des uniformes qui ressemblent aux nôtres. Tous les cœurs battent, la même pensée, rapide comme l'électricité, a parcouru toute la foule et chacun, spontanément, sans se faire part de son espoir, se précipite vers l'embarcadère. L'embarcation n'est plus qu'à une vingtaine de brasses de terre, lorsque, du groupe des officiers réunis sur son arrière, se lève un homme qui se découvre et salue la foule. Plus de doute, c'est lui. À sa chevelure blonde, à ses yeux bleus et doux qui respirent l'audace et la bonté, à sa contenance noble et martiale, on ne peut le méconnaître, c'est l'ermite. Alors, une acclamation répétée par les échos de la baie s'élève, immense et délirante, vers les cieux. Les forts, aux aguets, mêlent aussitôt la grande voix du canon aux joyeuses clameurs de la foule. C'est un hymne bruyant, un triomphe improvisé et véritable, à rendre jaloux un roi. Enfin, le canot accoste, abritant les premiers rangs des spectateurs sous ses couleurs parlementaires. Le quai disparaît sous le flot des assistants. On se pousse, on se jette à l'eau, pour voir de plus près le héros que la générosité de Sir Pellew rend à la France. L'ermite veut s'élancer sur la plage, mais son pied ne la touche pas. Saisi au milieu de son élan par 100 bras enthousiastes, il est enlevé sur un pavois improvisé avec des avirons, et malgré les efforts que lui fait tenter sa modestie, malgré ses prières, malgré sa résistance, il est porté en triomphe au milieu des cris de joie de son nombreux cortège vers le palais du gouvernement. Quant à moi, l'un des premiers, je l'ai reconnu, le premier, je l'ai salué d'un cri parti du cœur lorsqu'il est descendu à terre. Il m'a remarqué et il m'a souri. Peut-être m'eût-il appelé par mon nom, s'il n'eût été occupé à se dérober aux empressements de la foule. Je me suis trouvé heureux de cette reconnaissance et de ce sourire. Mais, hélas, ma joie est tempérée en remarquant que des 6 officiers restés si noblement avec leur capitaine, 3 manquent en ce moment à l'appel. 2 ont été retenus prisonniers par Sir Pellew pour servir à constater la destruction de la preneuse. Le 3e est l'enseigne Graffin.